Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Bonjour à tous, 10e étape du Tour de France aujourd'hui entre Mulhouse et la planche des Belles-Filles. 161 km 500 au programme des coureurs. Et pas que ça, pas que des kilomètres, parce qu'il va falloir s'infuser, s'avaler et digérer 7 difficultés aujourd'hui. Comme le disait Christian Prudhomme hier à l'issue de l'arrivée de la 9e étape, c'est probablement l'étape de moyenne montagne la plus dure de l'histoire du Tour de France, d'autant que les conditions climatiques une nouvelle fois sont déplorables. Aujourd'hui, sur la route du Tour, il pleut à verse, même si on annonce une amélioration météo dans les 2 heures. On va vivre évidemment cette étape avec toute l'équipe de l'Intégral Tour qui se fait un plaisir de vivre probablement l'un des grands moments de ce Tour de France. 135 km encore à parcourir, puisque le peloton s'était lancé voilà maintenant une petite heure de Mulhouse. On va saluer toute la petite bande et faire le point sur la course. On va tout de suite partir sur la route justement avec la moto RMC, une petite carte postale dans le massif des Vosges avec la moto de Georges Quirino.
La carte postale des régions avec ERDF. ERDF et l'électricité vient à vous.
Carte postale pluvieuse. Salut Georges.
Salut Christophe. Ouais, j'arrive pas à ramener une carte postale toute sèche à l'arrivée pour l'instant. Depuis le début du tour, elle est toujours mouillée ma carte postale.
Eh oui, c'est un peu le problème, mais je te le dis, la situation météo va s'améliorer. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas, puisque le peloton et les hommes échappés, il y en a quand même quelques-uns, sont pour l'instant sous la pluie, dans la première difficulté du jour, Georges.
Exactement, oui, c'est le col de First Plan, cette première difficulté de la journée. On est sous la pluie, Christophe, on est au kilomètre 24 là, ça fait maintenant une bonne dizaine de minutes, un bon quart d'heure qu'il tombe des cordes sur les coureurs du Tour. Encore une fois, on a envie de dire depuis le début de ce Tour, c'est malheureusement souvent comme ça, on est au milieu des sapins qui nous protègent un petit peu de la pluie, mais pas énormément. On a sorti des parapluies sur le bord de la route, les bords de la route où on voit énormément, Christophe, depuis le début de cette étape, eh bien des petits panneaux avec l'inscription allez Tony, allez Tony. Et oui, allez Tony Galopin, le maillot jaune français depuis hier, qui eh bien voit sa nouvelle popularité depuis le début de cette étape. Il a été applaudi, acclamé au départ de Mulhouse tout à l'heure, autant acclamé qu'un Thomas Vauclair par exemple. C'est vous dire la popularité grandissante du nouveau maillot jaune. La chaussée, on a pu voir écrit plusieurs fois le nom de Galopin sur la chaussée du Tour. Donc évidemment, en cette journée de fête nationale, en cette journée 14 juillet, eh bien les Français sont fiers de voir un tricolore en jaune pour cette première grande étape de montagne, une fois de plus pluvieuse.
Et oui, une fois de plus pluvieuse, mais Tony Galopin, on va évidemment y revenir avec ce maillot jaune qu'il porte sur les épaules un 14 juillet. Ils sont assez peu nombreux finalement, les coureurs français, à avoir porté le maillot jaune. On fera tout à l'heure le point avec Fred. Cyril Guimard, lui, est sur son perchoir là-haut, il essaye de voir si la situation s'améliore, si la météo s'améliore et si le soleil revient. Salut Cyril. Toujours pas de soleil.
Salut Christophe, mais ça fait quand même quelques jours que tu nous annonces que le soleil va revenir. Je me demande si véritablement tu es de bonne foi, parce que ici, du haut de mon arbre, de mon perchoir, eh bien, ma visibilité ne dépasse pas 40 mètres.
Mais oui, parce que...
Alors, essaye d'avoir des informations plus crédibles, oui, Christophe, oui, sur la météo.
Dans 2 heures, il fait grand beau ici. Tu vois.
Bon, est-ce que pour la journée de repos, demain, il fera beau?
Ah oui, magnifique, pour la journée de repos.
Eh ben alors, ça sera parfait, surtout demain.
Piscine, les pieds en éventail pour les coureurs du Tour et pour certains suiveurs, pas tous, hein. Ça, malheureusement, c'est le cas. On va faire un point sur la course, puisque Fred Adam, je sais pas si vous l'avez vu sur BFM Télé, il y a une petite demi-heure, et il était sous la verse. Ça va mieux, t'as séché un peu. Bonjour Fred.
Pas encore, non, bonjour à tous. Oui, les conditions sont apocalyptiques entre Mulhouse et la planche des Belles-Filles. Ça s'est un peu calmé ici, on est dans le brouillard, un brouillard très humide, ça ressemble à un crachin sans visibilité, mais les informations qui nous viennent de la route du Tour, de l'étape, c'est que des déluges sont en train de s'abattre un peu partout. Ce n'est pas une pluie discontinue, ce sont vraiment des orages qui sont en train de frapper l'Alsace et qui frappe du coup le peloton. Pour l'instant, la course, les coureurs sont en train d'évoluer sous la pluie. Ça devrait être comme ça jusqu'à la fin de l'étape.
Dans 2 heures.
Dans 2 heures. Ok. On en reparle dans 2 heures.
On en reparle dans 2 heures. Quelle heure il est? Les 14h11. Tu vas voir. 16h11. Grand soleil. Fred, on va faire un premier top course parce qu'évidemment cette étape est partie il y a 1 heure. Et il se passe déjà plein de choses. Le premier top course de la journée.
RMC Top Course.
Effectivement, déjà des coureurs à l'avant. On n'a pas chômé à la sortie de Mulhouse. Il fallait se glisser dans l'échappée du jour. Peut-être la bonne, mais peut-être pas. Vu le menu proposé aujourd'hui aux coureurs, 7 ascensions, dont 7 classées, dont 4, pardon, classées en première catégorie au Grand Prix de la Montagne. On a 10 coureurs à l'avant à 133 km de l'arrivée, c'est-à-dire dans le final du premier col de la journée, le col du First Plan. Et les leaders ont envoyé certains émissaires à l'avant. On trouve ainsi Liu Vestra, le Hollandais de l'équipe Astana qui représente Vincenzo Nibali. Nibali deuxième du général derrière Tony Galopin. Et puis on a là 4 Français, Arnaud Gérard, Amaël Moinard, Christophe Riblon et Thomas Vauclair, l'Espagnol Irizar, l'Italien Visconti, un autre Espagnol, Joaquin Rodriguez, qui lui part à la conquête des poids du classement de la montagne. Peter Sagan et son maillot vert sont là, évidemment, pour aller prendre quelques points sur le sprint intermédiaire et conserver sa tunique et renforcer sa tunique du classement par points. Et le Tchèque Yann Barta, dixième homme de cette échappée au dernier pointage, bientôt en haut de la première des 7 difficultés de la journée. 4 minutes d'avance pour ces 10 fuyards sur un peloton mené par les Lotto Bellisol et par l'équipe suisse Yam Cycling, qui voulait mettre un coureur dans cette échappée et qui n'y est pas parvenu. Du coup, ils se sont fait taper sur les doigts, punis les coureurs. Jérôme Pinot a tenté de sortir, relayé par son équipier Heinrich Hosfer, et c'est Sylvain Chavanel qu'on aperçoit en tête de peloton maintenant.
Et en tête du groupe d'échappée, un certain Thomas Vauclair. Cyril, on sait qu'il est cocardier, Thomas Vauclair, et peut-être que sa popularité aujourd'hui est mise en balance par le fait que Tony Galopin porte le maillot jaune. Alors Thomas Vauclair est en tête de ce groupe d'échappés depuis un moment. Il fait beaucoup de travail, hein, on l'a vu depuis un bon quart d'heure. Maintenant, il prend des relais très appuyés.
Oui, bah, dès le départ, on a vu qu'il avait envie de sortir, mais ce n'est pas lui qui est sorti le premier. Et là, on va redescendre au niveau de la course stratégique pour la chasse au maillot jaune. Non pas la chasse à Tony Galopin, qu'il faut féliciter pour sa très belle victoire, prise de pouvoir hier, mais dans le match entre Contador et Nibali. Et on vient de s'apercevoir d'ailleurs que les équipiers de Contador venaient se placer en tête de peloton, même si ce n'est pas eux actuellement qui assurent la poursuite. Effectivement, comme le disait Fred, l'équipe Yam s'est fait taper sur les doigts. Ils n'ont pas essayé d'aller dans cette échappée, et maintenant, bon, on leur a tout simplement demandé de rouler, alors qu'ils n'ont personne au classement général pour jouer un rôle quelconque, voire même d'ailleurs pour jouer un rôle pour la victoire finale, sauf bien sûr s'ils avaient été dans la première échappée. Mais je trouve que c'est un peu tard de les faire rouler alors qu'il y a déjà, il y avait déjà plus de 4 minutes, et de commencer à les faire rouler dans l'ascension du col, c'eût été beaucoup plus efficace de les faire rouler quand l'écart n'avait pas dépassé
une minute trente. Directeur sportif de Yam
pour... Oui, là on est dans la punition, c'est vrai. On a vu Jérôme Pinot qui est parti un petit peu n'importe comment en chasse patate. Non, il fallait prendre la barre quand l'écart était d'une minute si on voulait vraiment jouer un rôle, et à ce moment-là revenir tout de suite sur l'échappée. Ce qu'ont fait d'ailleurs 3 coureurs, et là c'est important, Peter Sagan, le maillot vert, mais également Rodriguez, lui il est à la chasse au classement par points de la montagne, et puis Yann Barta, qui eux sont sortis et ont réussi à revenir à 5 km du sommet sur les 7 hommes de tête. Cette échappée a quand même une belle gueule. Hein.
Ah oui, il y a du beau monde, hein, Fred, dans cette échappée. Tu nous as donné la composition tout à l'heure. Il y a des hommes qui peuvent espérer aller au bout, et notamment évidemment pour Ito Rodriguez, qui est vraiment sur son terrain là aujourd'hui.
Oh oui, une rampe finale ici en haut de la planche des belles filles à 20%. Souvenez-vous, c'est bien là que Christopher Froome s'était révélé au grand public en devançant au terme d'un sprint à l'arraché Cadel Evans et Bradley Wiggins. Vincenzo Nibali avait pris la quatrième place en haut de cette ascension classée en première catégorie. C'est vrai que le final est taillé pour le grimpeur de poche Rodriguez, le dynamiteur des montagnes Rodriguez, qui est capable de violentes accélérations, qui a une sacrée giclette. Encore faudra-t-il tenir pendant toute la journée avec, on le rappelle, cette ascension au menu. Ce troisième volet du triptyque vosgien est le plus redoutable. L'écart est en train de descendre. 3 minutes d'avance pour ces 10 fuyards. C'est vrai qu'il y a Rodriguez, il y a Sagan qui devrait se relever après la première descente, puisque c'est en bas de la première descente du jour que sera jugé le seul sprint intermédiaire de la journée. Et puis il y a là également Thomas Vauclair, qui, on le sait, est capable de gérer ce type de longues échappées à merveille. Il l'a déjà prouvé à de nombreuses reprises, que ce soit vers Saint-Flour ou vers Bagnères-de-Luchon. Et puis notez la présence de Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez l'an passé. C'était un rescapé en haut des 21 virages cette journée, qui avait vu les coureurs escaladé à 2 reprises l'Alpe d'Huez pour la première fois de l'histoire. Christophe Riblon a peut-être, a sans doute, a de toute façon une idée derrière la tête. Il rêve de rééditer son exploit de l'an passé et d'apporter à son équipe à G2R la mondiale une deuxième étape, une deuxième victoire d'étape sur ce tour après celle de Blaise Cadry avant-hier.
Voilà, Christophe Riblon qui est vraiment sur son terrain aujourd'hui, comme les grimpeurs qui font partie de ce groupe, Cyril, parce que même si on considère que c'est une étape de moyenne montagne, comme le disait Christian Prudhomme, c'est probablement la plus dure de l'histoire du Tour hein, en matière de moyenne montagne. C'est quasiment la haute montagne, on est carrément dans les Pyrénées.
Je pense qu'on peut même pas la considérer comme une étape de moyenne montagne compte tenu des pourcentages et du nombre d'ascensions, alors que nous sommes maintenant sur le sprint au classement de la montagne.
Quel sprint au sommet du col du First Plan, classé en deuxième catégorie. On sait dès maintenant, à 14h18, on sait qui dans cette échappée de 10 coureurs au début d'une longue journée en enfer sous la pluie avec cette escalade au menu. On sait qui est intéressé par le maillot de meilleur grimpeur. Thomas Vauclair a sprinté et passé en tête devant Purito. Non, c'est Rodriguez. Joaquin Rodriguez devant, okay. Qui a sauté sur la ligne. Thomas Vauclair qui a pourtant lâché beaucoup d'énergie dans ce sprint.
On va essayer de retrouver la moto qui se trouve justement avec les hommes de tête dans la descente dans des conditions apocalyptiques. Apocalyptique.
Tic-tic-tac.
Georges, ça n'arrête pas de tomber. C'est terrible, là, les conditions. Hein.
Ouais, et là c'est même difficile de t'entendre, Christophe. On a basculé dans la descente et là vraiment au moment où on a passé le sommet de ce col de First Plan, un déluge qui s'abat sur nous, la chaussée est complètement trempée, là il tombe des cordes, c'est un peu équivalent à la grosse averse qu'on a eue il y a 2 jours sur la 8e étape il me semble. Là dans la descente ça va rendre ça très dangereux. On est sur une chaussée où on peut passer à une voiture et demie, pas plus, c'est pas trop technique pour l'instant, mais là c'est vraiment un gros déluge. La chaussée est complètement trempée, là il y a 1 cm d'eau sous nos roues et évidemment ça va être il va falloir être très prudent pour les hommes de tête et pour le peloton qui va passer dans quelques instants au sommet. Il fait froid, il peut des cordes dans le début de cette étape. Le ciel est gris noir devant nous, donc pour l'instant on voit pas trop à quel moment ça va se calmer.
Ouais, on a l'impression qu'il fait nuit, Cyril, sur les routes du Tour aujourd'hui dans la descente de cette première difficulté. Hein.
Oui, mais il faut être bien réveillé. Hein. Ouais. Effectivement, le ciel est bas, la visibilité est limitée. On a pu voir d'ailleurs que Vauclair comme Rodriguez ont failli aller à la chute en passant la ligne parce qu'il y avait une légère courbe sur cette route détrempée et que ça a été vraiment très très limite. Thomas Vauclair a tenté de partir un petit peu dans cette descente et puis j'ai l'impression que tout le monde maintenant est en train de se dire bon, on va peut-être lever un petit peu le pied parce que c'est un petit peu trop dangereux. Et c'est vrai qu'on est dans des conditions qui ne sont pas loin d'être extrêmes. Il ne manque, j'ai presque envie de dire, que le froid.
Ouais. Alors, on sait que dans d'autres sports, lorsque les conditions sont extrêmes comme ça, les organisateurs annulent des épreuves ou escamotent des épreuves, même dans le Tour d'Italie, hein, lorsqu'il y a la neige par exemple, on ne passe pas certains cols. Aujourd'hui, Cyril, si les conditions restent identiques, est-ce qu'on peut avoir ce genre de décision prise
par les organisateurs ? Non, impossible. Impossible, parce que, comme je disais, un, il n'y a pas de neige, donc les routes sont toujours praticables, où il faudra une inondation, ou alors un cataclysme, mais les conditions, là, sont des conditions tout à fait normales, même si elles sont difficiles, par la pluie, par les routes glissantes, mais il n'y a rien qu'empêche un cycliste d'avancer sur cette route.
Mais oui, c'est quand même l'un des seuls sports où l'on n'annule rien, finalement.
C'est rarissime que l'on ait des étapes qui soient annulées. Alors bien sûr, parfois il y a des étapes qui sont raccourcies. On se souvient notamment sur le Tour de France de cette étape que Bjarne-Riis
avait. 1996.
Absolument. Que Bjarne-Riis avait
le col de l'Iseran.
L'Iseran, bien sûr. Oui. On avait chanté l'Iseran parce que là-haut c'était de la neige. Lorsqu'il y a des grêlons qui s'abattent sur une course de vélo, la course continue. Parfois, mais c'est vraiment exceptionnel. On s'arrête. On avait vu ça notamment, me semble-t-il, et Cyril me confirmera, sur un Tour de Suisse ou un Tour de Romandie il y a 3 ou 4 ans, avec des coureurs qui s'étaient abrités sur les bas-côtés dans des abribus, des scènes incroyables.
Oui, avec de la grêle.
Oui, des gros morceaux, des calots de grêle qui tombaient. Il y a eu effectivement cette année sur le Tour d'Italie la neige. Il y a eu un pataquès fait sur la manière dont a été gérée la course par l'organisateur du Giro, qui ne savait pas s'il fallait neutraliser la course, s'il ne fallait pas. C'était le jour où Pierre Roland était parti avec Nairo Quintana par-delà le Gavia. Et bien non, la course a bel et bien eu lieu, et aujourd'hui c'est vrai qu'il tombe des hallebardes, mais les coureurs devront se coltiner 161 500 km avec 7 ascensions, dont 4 classées en première catégorie, pour une journée en enfer a priori.
Voilà, une journée en enfer.
Peter Sagan qui fait son numéro dans la descente puisqu'il a lâché tout le monde, ce qui n'est point une surprise. Et pourtant Vauclair avait tenté de faire sa descente au départ, et puis Vauclair s'est dit attends, non, je vais mettre un petit coup sur les patins là, il va falloir les nettoyer. Et Peter Sagan est parti seul, et c'est très propre ce qu'il
fait.
Mais
c'est juste pour aller prendre les gros points du sprint intermédiaire.
Bon, peut-être pas besoin de partir seul dans la descente.
Il n'aura même pas à sprinter du coup.
Il a 100 points d'avance ou un truc comme ça.
Mais surtout, il a une pointe de vitesse largement supérieure à ses 9 compagnons d'échappée, et il aurait réglé tout ça facilement. Sagan qui est toujours dans la descente. Pour l'instant, aucune chute, mais ça sent quand même des épisodes sinon dramatiques, au moins fort spectaculaires aujourd'hui sur cette route détrempée, inondée même.
Voilà, Peter Sagan en tête dans la descente de la première difficulté du jour, le col de First Plan qui a été gravi par les échappés et par le peloton. On se retrouve dans quelques instants pour faire un nouveau point. Nous sommes à 125 km de l'arrivée. Il tombe des hallebardes depuis aujourd'hui sur les têtes des coureurs du Tour de France. Une étape qui va sans doute être dantesque. On revient dans un instant.
RMC jusqu'à 18h, Intégral Tour. RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
La 10e étape de ce Tour de France aujourd'hui, étape vérité, sans doute l'une des plus belles sur le papier en tous les cas. On verra tout à l'heure ce que les coureurs en feront entre Mulhouse et la planche de Belfie. 161 km à parcourir et pas moins de 7 difficultés à franchir. Les coureurs du peloton ont déjà terminé la première, le col du First Plan. Ils sont dans la descente actuellement, toujours sous des conditions apocalyptiques, puisqu'il tombe un véritable déluge sur les têtes des coureurs depuis le départ de cette étape. Même si on nous annonce une amélioration au cours de l'après-midi, pour l'instant elle tarde à venir, cette amélioration. Le peloton, enfin en tous les cas les hommes de tête, les hommes échappés viennent de franchir la ligne du sprint, Fred, et c'est évidemment un homme en vert qui est passé sur la ligne le premier.
Le petit ou le gros bonhomme vert effectivement de ce Tour de France, le double vainqueur sortant du classement par points sur le Tour de France, c'est le Slovaque Peter Sagan qui a réussi à se glisser dans cette échappée, non sans de rudes efforts pour rentrer sur la tête de course avec Joaquin Rodriguez. Peter Sagan qui est venu récolter de gros points et conforter une nouvelle fois sa place de leader du classement du maillot vert. Peter Sagan qui maintenant va pouvoir, selon toute vraisemblance, se relever. Selon toute vraisemblance, mais pas assurément, mais pas à coup sûr, parce que ce Sagan est capable d'accompagner le mouvement pour pouvoir mieux se relever encore en toute fin d'étape quand il aura vraiment mal aux jambes. En tout cas, avec 2 minutes 45, cet échappé a quand même du mal à prendre du champ. On rappelle que dans le groupe de tête, On trouve 4 Français, Arnaud Gérard le Breton, Amaël Moinard pour BMC, Christophe Riblon, le vainqueur de l'Alpe d'Huez l'an passé pour l'équipe AG2R La Mondiale, l'inévitable et infatigable Thomas Vauclair. Il y a là également Giovanni Visconti, l'ancien champion d'Italie, le Basque Irizar, Joaquin Rodriguez, on en a parlé, Yann Barta le Tchèque, mais aussi, tiens, Liu Vestra, le coéquipier de Vincenzo Nibali chez Astana, celui qui nous avait fait une si forte impression l'autre jour sur l'étape des pavés en direction d'Arambert.
Et oui, il a placé un de ses hommes à l'avant. Ça peut servir pour plus tard dans le final de l'étape, Cyril.
Ah, c'est l'objectif, hein. C'est clair que c'est l'objectif, mais une course qui bouge énormément, hein. D'ailleurs, lorsqu'on regarde, parce qu'il y a la course à l'avant, mais la course à l'arrière, eh bien, dans cette descente mouillée, glissante sous la pluie, eh bien, le peloton a explosé en plusieurs morceaux. Et puis, fait important, il y a une contre-attaque derrière le groupe de tête où se trouve le Polonais Gartowski avec ce diable de Tony Martin, Cyril, qui actuellement fait un raid pour essayer de revenir sur les hommes de tête et surtout de piéger les autres favoris du Tour.
Très bien, on va retrouver la moto RMC. Georges Quirino qui est au contact d'un directeur sportif, me semble-t-il.
Oui, on se rapproche de la voiture Trek de Alain Galopin, voilà, qui suit Marc Elirizar dans cette échappée. Bonjour Alain.
Oui, bonjour.
Bon, vous nous avez dit tout à l'heure qu'hier c'était impossible de parler. Là, vous voyez votre nom partout sur la route avec votre neveu Tony qui est en jaune. C'est incroyable, non?
Oui, c'est vrai qu'hier c'était difficile pour moi de parler parce que c'est dans des moments comme ça, d'ailleurs on l'a vu après à la télé, j'étais trop ému. Et je pensais à ma famille, je pensais surtout à un certain Laurent Fignon qui a gagné sa dernière course là. Donc c'est vrai, mais aujourd'hui là je pense que ça va mieux et bon, je fais mon boulot de directeur sportif chez l'équipe Trek et bon c'est parfois difficile de conjuguer les deux, mais bon, ça marche, on se débrouille quoi.
Juste Alain, je vous ai vu ce matin croiser Tony, vous l'avez vu en jaune, vous lui avez dit Tony, j'ai pas les mots. C'est ça, c'est dur même de parler à son neveu le matin.
C'est vrai que pour un jeune Français être en jaune à 14 juillet, je vois pas ce qu'on peut penser de mieux quoi. Je crois que c'est plus beau que de gagner une étape, c'est plus beau que tout ce qu'on peut espérer dans le vélo quoi. Parce que c'est un symbole, c'est quelque chose d'extraordinaire et même s'il a plus jaune ce soir, je crois que pour l'instant c'est que du bonus.
Vous le voyez votre nom partout là, Alain, depuis le début de l'étape.
Oui, non, mais je regarde, hein, j'entends pas très bien, mais je vois très bien par contre. Donc voilà. Un petit coucou à mon copain Cyril, parce qu'on en a parlé la veille, donc le petit 5% qui lui a manqué, bah, il était là, quoi. Oh, mais il le mérite, Tony, il le mérite, c'est un type qui travaille beaucoup, il est très assidu dans son métier, et franchement, un jour ou l'autre, ça paye. Il a déjà passé tout près du maillot jaune il y a 2 ans dans l'étape de Port-Entruy. Et là, je suis vraiment, vraiment, vraiment content pour lui.
Juste hier soir, vous êtes allé à l'hôtel, vous êtes réunis en famille ou...
Bah non, moi je vais avec mon équipe.
Vous êtes
donc,
votre équipe, ouais.
Non, mais j'ai été comme en course, très professionnel. On a vu Cancellara et des Tony, mais moi j'ai rien demandé, donc je suis resté, je fais mon boulot, je suis dans une très bonne équipe, l'équipe Trek. C'est une équipe qui se construit, une équipe d'avenir et je pense qu'on a un bon futur avec cette équipe-là, on verra.
Super Alain, et vous êtes derrière Marc Elirizar dans cette échappée. Il y a un coup à jouer aujourd'hui, rapidement.
Oui, bah, Marc Elirizar, c'est pas trop un grimpeur, mais on va voir, on est présent, c'est ce qui compte.
Super, merci beaucoup Alain Galopin qui nous fait le plaisir d'être avec nous, directeur sportif de l'équipe Trek et oncle du maillot jaune. Il nous a prévenu en début d'étape, hein. Il nous a dit... Hier, j'étais pas capable de parler, mais tout à l'heure, venez me voir, je vous dirai un petit mot sur Tony. Mais voilà, chose promise, chose due pour l'oncle d'Alain Galopin.
Exactement,
de Tony Galopin.
Évidemment, oui, on les confond. Il y en a tellement des Galopins dans le peloton, il y en a eu tellement, hein, parce qu'il n'y a pas que Alain qui a été, il n'y a pas que Tony non plus. Il y a eu le papa de Tony qui a également été coureur cycliste, qui a fait le Tour de France dans les années 70.
J'ai
été l'invité d'RMC ce matin. Cyril, Alain, il faisait allusion il y a quelques instants. C'est vrai qu'on avait eu l'occasion de discuter avec lui la veille de l'étape où Tony s'est emparé du maillot jaune, une longue discussion. Mélenchon. Il nous parlait justement des qualités de son neveu. Et tu lui disais, il lui manque un tout petit quelque chose au sprint, en montagne, pour être un super grand champion. Mais c'est vrai qu'il a su hier se sublimer et il a su faire preuve d'intelligence stratégique en prenant le bon coup pour aller chercher ce maillot jaune.
Opportunité, sérénité et intelligence sur l'étape d'hier lui ont permis tout simplement à cette veille de 14 juillet de gommer les petits pourcentages que l'on évoquait avec Alain ensemble pour Tony. Eh bien, cette sérénité, cette intelligence, cette opportunité les a gommés hier et lui a permis de devenir maillot jaune, quelque chose qu'on n'effacera plus aujourd'hui des tablettes.
Ouais, on disait hier soir dans nos débats, Cyril, il a changé de statut et évidemment pour la suite de sa carrière, ça peut être tout à fait intéressant parce que ce garçon a un gros moteur.
Il a un très gros moteur, il l'a surtout utilisé jusqu'à maintenant au service de grands leaders d'ailleurs, où on apprend toujours beaucoup hein, lorsqu'on travaille au service de grands leaders. Il se trouve dans cette position de leader sur un terrain qui, malheureusement, j'ai envie de dire aujourd'hui, n'est pas idéal pour qu'il puisse être certain de conserver cette belle tunique jaune. Mais on a pu voir depuis le matin que, eh bien, ce sont ses équipiers qui contrôlent la course, qui le mettent à l'abri. On a vu longtemps avant l'ascension du premier col, Greg Pöll lui-même rouler en tête de peloton pour essayer de faire en sorte que les choses soient relativement calmes et que la bagarre ne parte pas trop vite, ce qui pourrait peut-être permettre, si Tony ne paye pas trop ses efforts d'hier, ce qui peut être vrai d'ailleurs pour Pierre Roland entre autres et Cyril Gauthier qui ont fait aussi le même footing que lui hier, eh bien d'avoir bien récupéré pour essayer sur cette dernière ascension ou sur les deux dernières ascensions, eh bien de conserver ne serait-ce qu'une petite seconde au classement général sur les grands favoris du Tour de France qui ne vont pas manquer de s'expliquer. D'ailleurs, c'est déjà commencé avec l'offensive de Jarzewski.
De Kwiatkowski.
Ouais,
oui, mais le polonais était moyen en polonais.
Hein. Mais je suis moyen dans toutes les langues, moi, même l'anglais. Hein.
Tiens, on a rencontré Joël Galopin, le papa de Tony, hier à l'issue de l'étape où son fils s'est donc emparé du maillot jaune. Et il nous a parlé justement des débuts de Tony Galopin dans le métier de coureur cycliste, plutôt dans sa jeunesse de jeune coureur. C'était pas évident pour lui. On écoute Joël Galopin.
Il n'aime pas quand on en parle, mais quand il avait 13 ans, il faisait 80 kilos. Il n'était pas très grand. Quand il a commencé à courir en minime, la première année, il a eu des débuts très difficiles. Il n'a pas fini une course dans le peloton. Il a beaucoup souffert parce qu'il y en a beaucoup qui lui ont dit « T'es pas digne d'être le fils à Joël ». Après, il est revenu me voir et tout ça. Et un jour, il s'est pris en charge. Il a grandi, il s'est affiné. Et puis, il a beaucoup travaillé pour gagner des courses. Il a écouté. Mais il y a un truc quand même qui m'a toujours dit, jusqu'à junior, hein, je l'ai beaucoup, on était pratiquement tous les deux. Et il m'a toujours dit « Papa, tu sais, je t'écoute. Mais si tu te trompes, je t'en voudrais. » Je pense que pour l'instant, ça va. Hein. Il n'a pas à m'en vouloir.
Voilà, témoignage très sympa de Joël Galopin, le papa. Comme quoi, Cyril, hein, comme quoi, même si au départ, on n'a pas les aptitudes, même si on n'a pas le physique pour faire un bon coureur cycliste, avec la volonté et avec un bon guide, comme a pu l'être Joël Galopin, eh bien, on peut arriver à devenir un grand cycliste et à, pourquoi pas, décrocher le maillot jaune, comme c'est le cas de Tony.
Oui, les qualités, il les avait. Hein. C'est pour d'autres raisons qu'il n'arrivait pas à gagner de course, encore que moi, je l'ai vu quand même gagner en cadet. Hein. Pas très loin d'ailleurs des temps où j'avais été passer une journée avec Alain.
Avant les cadets, il disait quand il avait 13 ans, il faisait 80 kilos, il était
oui,
pas
non,
très grand.
Justement,
donc...
le poids-puissance à cet âge-là, c'est quand même un peu inversé. Mais après, effectivement, quand les choses se sont inversées, le moteur était là et bien là.
Très bien, donc Tony Galopin en jaune pour l'instant, c'est un peu compliqué pour le peloton maillot jaune parce qu'ils doivent faire face à plusieurs tentatives, notamment de celle de Kwiatkowski. Fred, oui. On va faire un nouveau top course.
RMC Top Course.
À 116 km de l'arrivée très exactement, la tête de course qui entame l'ascension du petit ballon. La deuxième difficulté du jour, elle est classée en première catégorie. Elle dure 9 km à 8%. Oui, aujourd'hui c'est une vraie étape de montagne avec un scénario classique. Une échappée de 10 coureurs qui a pris du champ avec des coureurs qui ne sont pas dangereux au classement général. Le mieux placé au général ce matin, c'était Biu Vestra à 32 minutes du maillot jaune Nibali. Dans cette échappée, on rappelle la présence de 4 coureurs français, Arnaud Gérard le Breton, Amaël Moinard le Normand, Christophe Riblon le Picard et le Thomas Vauclair national en ce jour de 14 juillet. Également présents, 2 Espagnols, Irizar et Joaquin Rodriguez, parti à la chasse au maillot à pois, l'Italien Giovanni Visconti, Peter Sagan le maillot vert, et il y a également le Tchèque Jan Bartha, et puis on l'a dit, Liu Vestra, le coéquipier de Vincenzo Nibali. Derrière, le peloton est à 2 minutes 30 et intercalé, on a un quatuor dangereux. Pourquoi ? Parce que dans ces 4 hommes intercalés, il y a Michal Kwiatkowski qui pointait ce matin à 4 minutes au classement général. Kwiatkowski qui est accompagné d'un équipier de sa formation Omega Pharma, et pas n'importe lequel, le porteur du maillot à pois, Tony Martin, vainqueur hier de façon extraordinaire à Mulhouse après un long raid, une échappée de plus de 160 km. Et bien Tony Martin, le triple champion du monde du contre-la-montre, a gardé des forces et de l'essence dans le réservoir. Il est en train de tirer ce groupe de 4 pour rentrer sur la tête de course. Il y a là également dans ce groupe Taramae l'Estonien et Hollenstein Wiss, un duo suisse de l'équipe Yam Cycling. Yam qui tenait à mettre quelqu'un dans le coup aujourd'hui. 115 km à parcourir pour la tête de course. Le peloton à 2,25. La contre-attaque à 1,30.
Voilà, 115 km encore à parcourir. Deuxième difficulté du jour pour les coureurs du peloton. L'avance des hommes de tête est de 2 minutes 28. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'intégral tour. Donc pour cette grande, très grande étape de montagne dans des conditions très difficiles, même si la pluie s'est un petit peu estompée depuis quelques minutes. Et évidemment, on souhaite que ce soit le cas jusqu'à l'arrivée. À tout à l'heure.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Sessieux.
Et il reste encore 113 km dans cette 10e étape du Tour de France entre Mulhouse et la planche des Belles Filles. 113 km et une situation qui évolue minute après minute. On avait il y a quelques instants un groupe de 10 avec pas mal de Français, et dans ce groupe on comptait notamment Peter Sagan, le porteur du maillot vert. Mais là, il est en train de coincer l'ami Hulk.
On est en train d'en perdre sur la route du Tour, une route détrempée. On vous rappelle que c'est le déluge sur cette étape reine des Vosges. Deuxième ascension du jour, classée en première catégorie, le petit ballon. Luc Leblanc, qui est sur la route de l'étape, m'envoie.
Il est à côté du petit ballon, c'est l'étape. D'habitude, il est plutôt à côté du grand ballon.
Il tourne à l'eau aujourd'hui. Il tourne à l'eau, il m'envoie des photos toutes les 5 minutes avec des images apocalyptiques. Il n'y a pas encore d'arbres couchés sur la route, mais le ciel est noir. Des cordes s'abattent.
Dans 1h30, il fait beau.
Ok, on en reparle encore. Oui, on est en train d'en perdre à l'avant de la course. Le groupe de 10 est en train de perdre des éléments. Effectivement, Peter Sagan, Hulk pour les intimes avec son maillot vert. Il a fait le début d'étape et il est en train de se relever. Il décroche avec dans sa roue Arnaud Gérard le Breton. Il n'y a plus 4 mais 3 Français à l'avant de la course. Avec, on le rappelle, Amaël Moinard, Christophe Riblon, Thomas Vauclair, et puis on trouve toujours les Espagnols Joaquin Rodriguez et Irizar, l'Italien Visconti, le Tchèque Bartha et un Liu Vestra hollandais, coureur de l'équipe Astana, coéquipier de Nibali, qui veut relancer le rythme parce que derrière ça revient fort. Il y a un groupe de 4 contre-attaquants, on vous le rappelle, qui est intercalé entre la tête de course et le peloton, et dans ces contre-attaquants il y a là Tony Martin, le vainqueur d'hier avec son maillot à pois sur les épaules, qui emmène son équipier Kwiatkowski, qui était sixième du général ce matin, à 4 minutes du maillot jaune Tony Galopin. Taramae est là dans ce groupe de contre-attaque avec Hollenstein et Wiss, un duo suisse de l'équipe Yam. Le groupe, le peloton maillot jaune est à 2 minutes 45. Tony Galopin qui parvient à rester avec les principaux prétendants pour la victoire finale. Devant, on est en train d'accélérer. On a vu Amaël Moinard relancer l'allure et on sent que c'est le feu, et apparemment on ne veut pas laisser revenir Tony Martin, mais surtout Kwiatkowski à l'avant de la course. Ce groupe de tête est en train de se scinder.
Et oui, parce que Cyril, si Kwiatkowski rentre dans le groupe de tête, ça, est-ce que ça condamnerait pas un peu l'échappée? Parce qu'évidemment derrière ils vont pas laisser partir Kwiatkowski, qui est un prétendant au classement général.
Oh, il y a deux courses, hein. Il y a la course de l'échappée pour pas que ça revienne à l'arrière avec un équipier de Nibali, rappelons-le, et puis le contre qui est sorti, ou plus exactement l'attaque de Kwiatkowski avec Tony Martin dans la descente sous la pluie. C'est en fonction de Kwiatkowski que le peloton va rouler, mais pas en fonction du groupe de tête, qui ne représente aucun danger au classement général. Et pour l'instant, eh bien, le peloton ne semble pas pas véritablement réagir derrière encore que on a des écarts là qui sont un petit peu qui ne sont pas obligatoirement justes. Puisqu'on annonce le peloton à 2 minutes 3, c'est-à-dire qu'il était à 3 minutes, on l'annonce à 2-3. Mais le peloton, c'est vrai, s'intéresse plus à Kwiatkowski qu'à l'échappée.
Très bien. On va, vous le savez, les conditions, on vous le répète depuis le début du direct, les conditions sont très difficiles aujourd'hui, puisqu'il pleut énormément sur la route du Tour, même si de temps en temps on a l'impression que ça s'arrange, mais pas vraiment. On va tout de suite retrouver notre ami Dédé. On ne sait pas où il est, mais... Il est par là, Dédé. Il est par là, coincé entre deux averses, dans des conditions très difficiles. Salut, Dédé. C'est pas évident aujourd'hui. Hein.
C'est pas évident. Moi, je suis actuellement sur la route des crêtes entre le Platzer-Wasel et le Markstein, et c'est un brouillard à couper au couteau, avec de la pluie, du vent. Tout le monde est sous les parapluies, en mitouflé comme ils peuvent, et c'est particulièrement piégeux et glissant. Ça ne s'arrange pas sur le sommet de l'étape, puisqu'on est au point quasiment culminant avec le Platzer-Wasel à quasiment 1200 mètres d'altitude.
Ouais. Alors Dédé, est-ce qu'il y a des risques dans les descentes? Est-ce qu'il y a des endroits qui justement sont devenus beaucoup plus dangereux à cause de ces conditions climatiques, à cause de la pluie ou éventuellement même de glissements de glissements de terrain? Non,
c'est les mots justes. Là on a sur la descente après le Markstein, il va y avoir deux virages dangereux qui se referment. Malgré la route assez large en descente, mais il y aura ces deux virages dangereux qui sont les vestiges d'un ancien chemin forestier d'ailleurs. Donc c'est vraiment étroit et c'est piégeux. Qui va être 90. Et puis il y a également dans le col d'Oderen la descente qui comporte aussi une épingle très prononcée qui débouche sur un petit pont avec les parapets. Donc là, s'il y avait une fuite, ça pourrait faire très mal. Évidemment, on a protégé, mais on peut pas en mettre plus que ça en protection. Et puis après, il y aura évidemment le col des Chevrères, qui est inédit sur le Tour, bien sûr, vous l'avez dit, et qui est surtout une route extrêmement étroite, bosselée, dégradé, dans un état pas très bon, même pas bon du tout. C'est la volonté du Tour d'ailleurs de la garder dans son jus. C'est une ancienne route forestière pour la précision, donc c'est vraiment une voie communale, ancienne appartenance de l'ONF, plutôt un chemin de débardage qu'une route normale. Donc là, ça sera assez compliqué, mais ça sera en montée. Et puis la descente en elle-même après sera beaucoup plus large parce qu'on revient sur une route départementale. Donc là, ça devrait être bon. Et puis après, il y aura la montée à la planche, qui elle sera comme celle qu'on avait connue la dernière fois. Ça ne changera pas, ça sera praticable. Évidemment, il y a de la boue un peu partout, mais la route devrait être propre. Vous parliez de couler de boue. Dans la descente du Markstein, il y a une coulée d'eau qui vient d'un parking un peu plus haut qui laisse échapper de l'eau. Et on a balayé, mais il y aura toujours des coulées d'eau à cet endroit-là, même si la route devait sécher un petit peu. Et à mon avis, c'est pas le cas. Hein.
Comment ça, c'est pas le cas? Les prévisions météo, Dédé, toi, tu vas venir à mon secours. Ça va s'arranger, là, un jour.
Alors, moi, oui, on m'avait dit, alors moi, je m'étais renseigné, j'avais regardé la météo, on m'a dit, à partir de la mi-journée, c'est-à-dire il y a 2 heures, en gros, ça va s'arranger. Voilà, moi, je dis, les météorologues se sont une fois de plus fourvoyés.
Ils sont tous en vacances, ils sont au bord de la plage, aux Caraïbes, et ils nous envoient des prévisions météo complètement farfelues. Merci Dédé, à tout à l'heure, ils vont être contents nos amis prévisionnistes.
Oui, ils vont être contents, à tout à l'heure.
À tout à l'heure, Dédé de l'Assemblée des départements de France, qui essaye de faire comme il peut pour arranger la route, mais avec les conditions météo évidemment, c'est pas facile. 111 km de l'arrivée, tiens, c'est l'heure des paris évidemment.
Les paris RMC. Tour de France.
Avec Benji Ramager qui va tout nous dire. Salut Benji.
Salut messieurs, on peut parier sur la météo si vous voulez aussi.
Ah voilà, bah alors là j'ai fait un pari si tu veux, ils me lancent tous des regards haineux, puisque je les ai tous fait mettre en short, notamment Olivier Schwartz qui a mis un magnifique short, moi aussi, mais bon, on commence à cailler un petit peu ici et l'amélioration tarde à se confirmer. En tous les cas, je mise sur une amélioration d'ici 2-3 heures. Putain, on va un peu retarder, hein. Olivier est pas d'accord. Très bien. Benji, aussi les paris donc sur cette étape. On va rappeler ce qui a été donné hier et puis les cotes des différents champions et différents postulants à la victoire.
Et la cote du favori, elle est toujours sur l'Espagnol Alberto Contador. Ça chute même malgré l'échappée. Il est à 1,85 désormais. Deuxième, Joaquin Rodriguez, un autre Espagnol, cote de 5. Vincenzo Nibali à 8 et Richie Porte à 9,50. Je rappelle les pronos. Luc Leblanc avait donné Kwiatkowski le Polonais cote de 100, donc attention à Lucho. Bourgui avait donné Contador à 2,50. Rodriguez pour Cyril et pour Christophe. Christophe, tu avais également ajouté une petite pièce stratégiquement sur Contador. Et puis il y avait également une pièce de la part de Gilbert Bribois sur Rui Costa.
Oui, sur Rui Costa, le champion du monde portugais. Pour l'instant, on l'a pas trop vu. Ok, est-ce que ça change est-ce que la situation de course, Cyril, fait que tu vas changer ton pari ou peut-être ajouter du live betting, tu sais, le pari en direct.
sur un pari en direct. Non, moi je suis fidèle et je respecte la moralité des législateurs français sur les paris.
Oui, mais ça existe, on a le droit de parier en direct maintenant, hein. Jusqu'à la dernière minute.
Non, mais pas sur les courses de vélo, ça n'existe pas, hein. Non.
On a et Cyril va peut-être pas changer alors qu'il a mis Rodriguez.
Je fais le règlement.
On n'a pas le droit de faire du live betting sur le vélo.
Mais si, évidemment, puisqu'on est en train de le faire.
Ben oui, c'est pour ça. Benji nous ferait pas faire des trucs interdits quand même.
Écoutez, Christophe, il dit bien qu'il va faire beau alors qu'il pleut.
Bon, Cyril, non, t'as pas en fonction
ben
de
non,
la
non, je suis un petit peu inquiet parce que l'écart n'a pas grossi suffisamment pour faire en sorte que on ait la certitude que le petit Espagnol soit en premier au pied de la dernière difficulté, ouais. Et encore avec suffisamment de fraîcheur. Il faudrait que l'écart soit plus important, mais Bjartoski est peut-être en train de le condamner.
Ouais. Très bien pour Cyril. Fred, tu nous as pas donné ton vainqueur hier soir, tu vas tout de suite réfléchir rapidement.
Oui, rapidement.
Ferme les yeux, Fred. Comme...
Aucune idée. Si je ferme les yeux, je vois Rui Costa le champion du monde.
Comme
mais...
Gilbert Bribois. C'est vrai que au niveau des paris, vous êtes...
Tiens, pour le voilà, j'y avais pas du tout pensé, mais pourquoi pas Thibaut Pinot, mais vraiment pour le spectacle et pour la beauté du geste, lui qui habite à quelques kilomètres du plancher Les Mines, qui marque le début de l'ascension de la planche des Belles Filles. Thibaut Pinot qui adore ses arrivées au sommet. Il n'y aura pas de descente après la planche des Belles Filles, donc c'est parfait pour lui, qui semble avoir une super condition. Et puis rappelons-le, c'est 14 juillet, messieurs, jour de fête nationale, un Français avec le maillot de la FDJ.fr sur les épaules qui s'imposerait, ça aurait un peu de gueule. Allez, une pièce sur Thibaut Pinot aujourd'hui.
Ok, une petite pièce sur Thibaut Pinot, même s'il dit qu'il a jamais été très très à l'aise dans
son... Moi non plus, ça va bien se passer.
Très bien, ok. Georges Quirino sur la moto RMC.
Moi, pour avoir vu le planting Cove Saxo ce matin et Philippe Mauduit notamment, même s'il est grandissime favori, il faut que je gagne un peu d'argent, même un petit peu. Donc je vois bien le geste du pistolero sur la ligne d'arrivée.
C'est son champion depuis des années. Georges, supporte, encourage l'ami Contador. Comment il fait déjà dans les interviews? Comment il répond déjà?
N'importe quoi.
Vas-y, fais-le. Non, il veut pas. Il va rien savoir.
Pardon?
Non, tu peux pas nous imiter Alberto là? Non, ok, d'accord.
Il a les mêmes jambes que Contador.
Il aime bien faire semblant de temps en temps
quand ça l'arrange. Quand ça l'arrange, il répond pas. Très bien, voilà Benji pour les paris. On en reparle évidemment ce soir. 110 km de l'arrivée. Toujours nos hommes de tête avec désormais une avance de 4 minutes sur le peloton maillot jaune.
Ils sont de moins en moins, hein. Dans la deuxième ascension du jour, ils ne sont plus que 5 à l'avant de la course. Et il y a là deux Français, Amael Moinard, Thomas Vauclair, l'Italien Visconti, l'Espagnol Joaquin Rodriguez et le Hollandais Liu Vestra. On est en train de perdre Christophe Riblon, le dernier vainqueur de l'Alpe d'Huez. 110 km de l'arrivée, 4 minutes 14 pour ces 5-là sur le peloton maillot jaune où l'on trouve Tony Galopin, 1,25 sur un groupe de contre-attaque où l'on trouve le dangereux Polonais Michal Kwiatkowski.
Il est 14h57, on va se quitter quelques instants pour laisser passer les infos de 15h et on revient juste après pour la suite de cette étape dantesque courue dans des conditions apocalyptiques. À tout de suite.